Hey, t'es ça, là.
L'avant-match.
Dans l'avant-match, voici Louis-Jean.
Monsieur Louis, excellente année 2020 à vous.
Et à vos auditeurs, toujours un plaisir. J'étais très, très, très enthousiaste à te retrouver, mon cher. Tout ce qu'il y a de mieux pour 2020.
Oui, monsieur, c'est réciproque. À partir de maintenant, on fait quoi avec le Canadien?
Je sais plus.
Tu le sais plus?
Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Sincèrement, je sais plus.
OK, on va faire notre manchette. On va faire notre manchette sur le site Internet du FM 93. Louis-Jean est à court d'arguments.
Ben, c'est parce qu'on a tellement débattu, toi et moi,
ben
là-dessus.
Oui, je sais.
Je comprends. T'sais, on le sait que le premier plan de Marc Bergevin n'a pas fonctionné. On sait que maintenant, il est en train d'essayer de refaire quelque chose. Et pour moi, ça fait du sens en partie. J'achète ce que Marc Bergevin fait à 85%.
OK.
Le bout que j'ai de la misère à comprendre sur le plus long, le moyen et le long terme, c'est la portion. On en a souvent discuté, débattu, mais là, on arrive, je pense, à la croisée des chemins. Et je suis certain que Marc Bergevin me dirait qu'il serait pas d'accord avec mon argumentaire, mais c'est la portion Carey Price, c'est la portion Shea Weber.
Ouais.
Tu fais quoi? Je pense que de laisser une équipe de jeunes apprendre par eux-mêmes, ça mène à rien. La preuve, Oilers d'Edmonton pendant des années. T'as des jeunes, mais il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas personne qui dit « Hey, les boys, c'est pas correct, c'est pas acceptable de perdre soir après soir. Il faut amener, tirer des leçons de chaque match pour apprendre à gagner. » De là, je peux comprendre l'importance de Shea Weber. Elle est grande, elle est, je dirais, tangible. Et même si t'es un fan de Piqué Subban, tu peux pas me dire aujourd'hui que tu ne comprends pas, tu ne vois pas la valeur de cette transaction-là. Là où je ne comprends un peu moins bien le plan, et c'est rien contre le joueur, mais c'est Carey Price, me semble, a une valeur.
Oui.
Il a une grande valeur encore. Carey Price, là, tu le mets pour, dans une bonne équipe aujourd'hui. Tu le mets même, mettons, avec les Canucks, qui sont une jeune équipe.
Oui.
Peut-être que tu gagnes une ronde. Peut-être que tu en gagnes deux. Peut-être que d'ici 2 ans, tu gagnes une Coupe Stanley ou d'ici 3 ans. Une équipe encore meilleure que les Canucks, avec plus de vétérans, des gars aguerris.
Oui.
Tu as une très bonne chance de gagner la Coupe Stanley. Alors, la question que je me pose, et je ne veux pas le chasser, parce que pour moi, Carey Price a été un des grands devant le filet de l'histoire des Canadiens de Montréal. Ça se défend par les statistiques. Ça se défend par le fait qu'il n'a jamais eu de grandes équipes devant lui. Ça se défend par le fait que ce gars-là a jamais dit « Je veux partir, je suis tanné, j'ai tout donné, j'ai pas assez d'aide. » Et ça, sais-tu quoi? Ça se défendrait. Il pourrait le dire, et je pense que personne ne le blâmerait. Mais malgré tout, est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il joue à la hauteur de son salaire actuellement? La réponse, c'est non. Et est-ce qu'il a un assez bon club devant lui? La réponse, c'est non. Est-ce que cette équipe-là va faire les séries? La réponse, c'est fort probablement non également. Fait que tout ça pour dire, je sais pas ce que tu fais. Moi, je pense que tu pourrais facilement vendre le point de dire, regarde, peut-être que c'est le temps de commencer à liquider et à échanger des vétérans pour aller chercher des joueurs qui vont nous aider au repêchage ou des espoirs qui, d'ici 2 ans, vont avoir un impact.
OK, mais là, je t'écoute, puis je suis très content de voir que t'as acquis une certaine maturité au passage de la nouvelle année, puis on arrive en 2020.
Pique-moi pas, Dan.
Non, au contraire, je te pique pas, je te rends hommage. On se retrouve en 2020, puis t'es rendu un peu plus lucide sur la performance du Canadien. T'as jamais été le cheerleader en chef, mais des fois, t'es défendu un peu trop à notre goût, mais ça fait partie de nos discussions fort intéressantes du lundi. Là, t'es rendu que tu te questionnes, tu te dis, Colin, on pourrait peut-être même échanger Price, celui que t'as très longtemps défendu. Là où tu dis, c'est un des grands de l'organisation du Canadien, en termes de victoire, pas en termes de match en saison régulière, je te le donne à 100 000 à l'heure, les stats sont écrits sur une feuille, puis quand on fait les tableaux, on le voit très bien. Par contre, ce qui fait mal à Price, et ce qui donne des arguments, Louis, à ceux qui l'aiment pas. D'abord, au début de sa carrière, ça a été son attitude. Ça, faut reconnaître qu'il n'y avait pas la bonne attitude, puis c'était la faute à tout le monde, sauf sa faute à lui. Je pense qu'il est moins pire qu'il était. Mais c'est ses performances en série. Tu vas me dire, ouais, mais là, Dan, ils vont jamais en série. Je comprends. Mais quand il a été en série, à l'époque où il y avait, mettons, Pacioretty puis Subban, c'était un pas pire noyau, ça, avec Gallagher puis une coupe d'autres. Là, il les amène pas en série. C'est que, on peut pas dire que c'est un grand gardien de l'histoire si en série, un, il est jamais meilleur que l'autre, puis au total, sur 10 ans, il n'aura pas passé une fois à deuxième ronde.
Écoute, il y a eu une blessure là-dedans, faut pas oublier. Il y a une blessure importante qui a fait en sorte que aussitôt qu'il a quitté, l'équipe s'est effondrée face aux Rangers de New York. On se rappelle de la collision avec Chris Kreider. Premièrement, je veux juste revenir sur ton le développement de ta question quand tu parles de lucidité et tout ça. Écoute, je sais qu'il y a certains des auditeurs qui disent « Ah, ben Louis, on le sait, c'est un cheerleader, puis un pompon, puis écoute, il endosse tout ce que le Canadien dit, il l'endosse. » Faux, c'est pas vrai.
Je te défends tout le temps quand
il dit ça.
C'est
passé pour savoir et pour voir des choses. Je vous le dis, ce club-là, tout à l'heure, tu parlais de l'effort. Ben, dans la Ligue nationale, c'est pas l'effort qui compte. Mais il y a un processus actuellement qui est en cours, et dès la première chronique ensemble, en début d'année, cette année, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, selon moi, ce club-là n'a pas assez de talent pour rentrer en série. Je pense qu'ils vont se battre, mais ils seront pas assez bons. Mais sais-tu quoi? Ils sont exactement là où je pensais les voir. Okay? Il y a rien qui me surprend dans ce que je vois actuellement. C'est précisément ce que je voyais dans ma boule de cristal pour ce club-là. C'est un club qui, il faut l'avouer, qui travaille soir après soir. Ils n'ont pas été souvent déclassés, même si on jouait contre des clubs qui étaient nettement meilleurs qu'eux autres. Il y a des fois où ils arrivaient dans des matchs, des clubs qui auraient dû battre, ils les battaient pas. Ça fait partie aussi de la réalité d'une équipe qui est... c'est dépourvu de talent et tout ça. Mais pour Carey Price, je te le dis, moi, je pense qu'une chose qu'il faut pas oublier, c'est cette parité dans la Ligue nationale de hockey que personne ne veut entendre, mais qui est la réalité. Carey Price n'a pas un grand club. Il n'a pas une grande défensive devant lui. Il n'a pas une équipe qui est capable de marquer une tonne de buts. Il y a des séquences que tout le monde connaît. Oui, des fois, ça va bien. Des fois, ça va moins bien. Il a sa part de responsabilité aussi. Mais la réalité, c'est que Carey Price, et je me fie pas juste sur Montréal et juste sur un marché, je regarde un peu ce qui se fait ailleurs et je regarde ce que les autres grands joueurs me disent également. Carey Price est un excellent gardien de but. Je sais que ça chicote des gens.
Techniquement, je te le donne.
Je sais que tu vas me dire, il gagne pas de rond et ces choses-là.
Je te le donne, Louis, je te le donne. Sauf que tantôt, tu disais, il n'y a pas une grande équipe devant lui. Il ne pourra jamais avoir une grande équipe parce qu'il gagne 10,5 pour encore 6 ans. Fait que, autour de lui, Marc Bergevin ne pourra jamais aller chercher 2-3 kingpins à 8-9 millions. Il va y manquer d'argent au bout.
Oui, mais là, d'abord, ça veut dire que les Oilers d'Edmonton, avec Drysdale et avec McDavid, ça va toujours être une équipe qui va être moribonde. C'est une équipe qui va jamais rien faire, mais au moins, le gars, il va gagner le championnat des compteurs. Peut-être qu'il va faire les séries, peut-être qu'il gagne une ronde, mais essentiellement, la coupe ne retourne jamais à Edmonton parce que Connor, il gagne 12 millions par année.
Non, mais attends, ils vont aller chercher un goaler à 3,5. Puis peut-être un défenseur ou deux à 6-7.
Ben, il y en a un goaler à 3,5 actuellement, là. Je veux dire, il ne fait pas un job, il s'appelle Koskinen.
Non, Koskinen n'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Ni Mike Smith, ni Koskinen peuvent représenter l'avenir.
Mike Smith est fini.
Non, c'est ça. C'est ça. Sauf que ça va être tough d'amener. Tu sais, il va falloir que Bergevin profite du fait qu'il y a des très bons jeunes. Mettons, Suzuki puis deux, trois autres de son calibre. Là, je te dirais, ils ont des chances. Parce qu'ils vont faire 3 ans à 975 000. Ouais. Mais quand ils vont gagner 5-6, ça va être tough sur le budget, là.
Le problème, c'est ça, c'est de trouver cet équilibre qui est nécessaire pour gagner. Puis, as-tu vu le film? Je sais pas si les auditeurs l'ont vu. Je sais pas comment ça s'appelle en français, là, mais c'est probablement Jour de repêchage, mais c'est Draft Day avec Kevin Costner. C'est sur la NFL. As-tu vu ce film-là?
Non, j'ai pas vu.
Oh my God. Faut que tu vois ce film-là.
C'est sur les Browns.
Will
en régie me dit que c'est sur les Browns de Cleveland, justement.
Exactement. C'est sur les Browns de Cleveland, mais c'est essentiellement l'histoire d'un directeur général qui, au repêchage, est en train de tout bousiller, puis finalement, au lieu de tout bousiller, finalement, c'est comme un coup de d'éclat, un coup de magie, et réussit à complètement relancer, revamper son organisation en bluffant, puis en faisant des transactions, puis en semant un peu la peur au repêchage sur un excellent choix au repêchage et tout ça. Ben, on sait que le repêchage cette année va être à Montréal. Il me semble que, moi, je pense que Marc Bergevin, là, je pense et je suis convaincu qu'il aimerait vraiment, vraiment frapper un grand coup au repêchage. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce grand coup-là? Évidemment, on présentement, là, d'abord et avant tout, on essaie de faire les séries. On fait des transactions mineures, on essaie de colmater la brèche. Je pense vraiment qu'on essaie de donner un petit coup de pouce à cette organisation-là actuellement, qui est décimée par les blessures, des joueurs extrêmement importants qui sont à l'écart du jeu présentement, mais... Moi, j'ai l'impression que Marc travaille extrêmement, extrêmement fort. Et ce qu'il veut faire, c'est donner un cadeau aux partisans du Canadien de Montréal. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est faire comme ce qu'on voit dans Draft Day avec Kevin Costner et essayer de frapper un pas juste un coup de circuit, il aimerait ça frapper un grand chelem. Ce serait sous forme de quoi? Comment on va réussir ça? C'est-tu d'aller chercher Alexis Lafrenière comme beaucoup de gens rêveraient de voir? Ça serait peut-être très, très, très difficile à faire. Est-ce que ça va être via transaction?
Mais attends. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. De réaliser un grand coup, ça va prendre un grand coup. Sinon, un jour, il va perdre sa job, Marc Bergevin, puis il aura pas eu le temps de faire un grand coup. Ceci dit, le grand coup avec Lafrenière, il y a une seule option. C'est que son équipe perde ce soir contre Détroit. Les Rangers et les Sharks gagnent, puis là, tranquillement, il descend au classement, puis il augmente ses chances d'avoir Lafrenière via la loterie. Il n'y a pas un DG de la Ligue nationale de hockey qui va échanger en 2020 son premier choix de repêchage s'il a regardé comme il faut, puis s'il a le câble à la maison, puis il a vu le championnat mondial de hockey junior avec la performance de Lafrenière. C'est impensable. Là, je sais qu'il y a des gens à Montréal qui rêvent à une transaction monstre, mais là, il faut que tu les arrêtes tout de suite. Ça n'arrivera pas, Louis. Là.
La transaction monstre devient... intéressante. Peut-être que Lafrenière, regarde, on parle d'un monde de rêve et tout ça, c'est certainement pas réaliste, mais la transaction monstre, tu sais, comme par exemple, je vais revenir à l'exemple de Carey Price, de plus en plus de gens commencent à poser la question. On en a parlé hier sur notre plateau, on en a parlé aussi à Dave Morissette en direct, de plus en plus de gens un peu partout se posent la question entre le plan qui est clairement un virage jeunesse qui opère actuellement chez le Canadien de Montréal, et le fait que tu as des vétérans qui ont encore une grande valeur, et est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es capable de faire fonctionner les deux? Est-ce que tu es capable de, par le temps que Suzuki va être bon, puis que Cale Fleury, qui ne joue pas ce soir, va être capable d'être optimal, ben,
il passe trois ans.
Price vraiment est ton gardien de but numéro un?
Ben non, c'est ça.
Est-ce que Weber est encore le gars qui joue 25 minutes par match? La réponse, c'est évidemment non. Et c'est pour ça que là, soudainement, le monde pose la question. Je te l'ai souvent dit, la seule façon, je pense, au moment où on se parle, que Carey Price quitte le Canadien, c'est lui, il se dit, gardez, là. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je suis à Montréal. Et là, je crois vraiment, sincèrement, je veux gagner. Et je ne veux gagner qu'à un seul endroit. Et c'est à Montréal. Mais là, regardez, là, c'est évident, ça n'arrivera pas. Alors, j'aimerais que vous me donniez la chance d'aller gagner ailleurs. Et là, le Canadien de Montréal, au repêchage, et c'est de ça, là, ma préambule de tout ça, là, tout à l'heure, sur le film. Si Carey Price devait dire, regardez, à la fin de la saison, on a raté les séries encore une fois pour une troisième fois en 4 ans. Malheureusement, pour le bien de l'organisation, il faut encore être patient. Il n'y a pas un miracle qui va arriver que tu gagnes l'année prochaine avec Carey Price et Shea Weber en allant chercher un bon joueur qui va repêcher troisième ou cinquième. Ça n'arrivera pas, soyons réalistes. Alors, si lui devait dire, sais-tu quoi? Merci beaucoup pour le bien de l'organisation que j'ai à cœur et aussi pour le bien de ma propre carrière. J'aimerais aller ailleurs. Et là, qu'est-ce qui arrive? Et c'est là le scénario magique que je te mentionnais. C'est au repêchage, c'est lors de ce week-end-là que tu décides de commencer à écouter pour des offres et ça va se faire un peu avant, évidemment. Et c'est là que tu dis, OK, c'est là ton coup de circuit. C'est là que tu dis, on va chercher des espoirs, on va chercher des joueurs, des gars qui vont vraiment pouvoir avoir un impact.
Je te rejoins, mais en même temps, même rendu là, malgré tout le respect que j'ai pour Price et sa valeur aux quatre coins de la Ligue, même rendu là, une fois que la loterie va être prononcée, les Red Wings de Détroit donneront pas leur premier choix contre Carey Price.
Oh non, mais regarde, je fais juste dire que c'est ce que les gens souhaitent et rêvent. Je suis pas en train de dire qu'on va aller chercher Lafrenière. Je suis quand même assez lucide.
Ben oui.
Je fais juste dire
méga transaction. Toi, dans le fond,
pas chercher ce gars-là, mais
ça peut être le troisième
choix,
puis on se ramasse avec Cole Perfetti ou un autre très bon espoir. Je comprends ton plan.
Mais pas juste ça. Je parle pas juste de gars au repêchage, moi, là. Moi, je parle d'espoirs qui dorment actuellement ailleurs, qui n'ont pas un impact, mais qui dans 2 ou 3 ans vont en avoir.
Je comprends. Au moment où l'équipe va être plus mature. OK. Mais de toute façon, c'est du quoi, Louis? La bonne nouvelle pour le Canadien, c'est que dans 2-3 ans, quand Price et Weber vont être trop vieux, bien, Kovalchuk va être dans la fleur de l'âge, lui.
Ah, Ilya Kovalchuk. Écoute, on va dire une chose, c'est drôle. Ce qui me fait rire d'Ilya Kovalchuk, c'est que les gens... Écoute, on va s'entendre, là. Moi, je m'attends, comme l'organisation, OK? Je ne m'attends à vraiment pas grand-chose d'Ilya Kovalchuk. Mais les attentes sont tellement basses actuellement qu'il va ne faire que faire mieux que ce que les gens s'attendent. Mais on dirait qu'on a de la misère à y donner crédit. Écoute, hier, il a joué son premier match en à peu près 2 mois.
Oui.
Et savez-vous quoi? Il a quand même très bien joué.
Je suis d'accord.
Pourquoi ne pas le dire? Il n'y a rien de mal à dire qu'il était bon.
Je suis entièrement d'accord.
Le meilleur attaquant du Canadien.
Non, j'ai fait
Est-ce qu'il va l'être ce soir? Ben là, probablement pas.
J'ai fait
mais
une blague.
Mais donnons du crédit. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on peut le dire.
Exact. Puis tu as raison là-dessus, mais j'ai fait une blague parce qu'il a 36 ans. Tu comprends? On parlait du noyau. Ceci dit.
Ben oui, non, j'ai parfaitement compris.
Oui. J'ai regardé le match comme toi hier, puis je me dis que Kovalchuk, ça, c'est à 700 000 avec un contrat 2 volets. Au pire, ça va mal, tu l'envoies à Joël Bouchard. Mais, sais-tu quoi? C'est un cadeau aux partisans. Les partisans, là, eux autres, ils payent le gros prix. Ils n'ont pas grand-chose sur quoi triper de ce temps-ci. Ils s'en vont au Centre Bell. D'après moi, ils vont s'acheter un chandail numéro 17 parce que Kovalchuk, dans le temps qu'il jouait à Atlanta, c'était un maudit bon joueur de hockey. Puis il prenait dans le pool de hockey puis il faisait 52 buts par année.
Oui, exactement. Puis c'est, tu sais, je pense que c'est là l'expérience de Marc Bergevin. Quand Marc Bergevin est arrivé à Montréal, il n'avait jamais dirigé. Il a commis des erreurs, il a fait des choses qui des fois, on se gratte la tête pour se dire, OK, j'essaie de comprendre la logique, là, puis j'ai beau l'analyser de tout bord, de tout côté, je comprends pas, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif, pourquoi tel ou tel move. Ça, c'est, selon moi, un directeur général qui est bien en selle, qui est en contrôle et qui se dit, OK, faut que je donne un nanane. Ça peut être un peu de la poudre aux yeux d'une certaine façon. Donc, je donne un peu de nanane à mes partisans, mais il n'y a rien de mal avec ça. Mais en même temps aussi, j'étais dans le vestiaire quand ils ont annoncé la transaction. J'étais là lorsque Scandella s'est amené.
Oui.
Comme un petit garçon, le matin de Noël, le sourire. Il n'était pas capable d'arrêter de sourire. Il devait avoir mal aux joues tellement il était heureux. Fait que le Canadien place des gars comme ça dans une situation où ils se disent, garde, sais-tu quoi? On t'évalue. On t'évalue, mon petit Marco.
Oui.
Toi, mon petit Elia, m'en fous ce que t'as fait. M'en fous que t'as fait 100 millions. Je m'en fous que t'as marqué 50 buts dans le passé. Regarde, on est mal pris. Puis sais-tu quoi? Toi aussi, t'es mal pris. Parce qu'il y a personne d'autre qui te veut. Alors, on va t'évaluer chaque pratique, puis chaque match. Puis sais-tu quoi? Si ça marche pas, on va te renvoyer à Laval. Puis si ça marche pas ça non plus, tiens, on te renvoie, va retourne chez vous, va à Miami, retourne dans KHL, c'est ton héritage qui va être affecté, pas nous autres. Nous autres, on va en trouver d'autres gars comme toi.
Exact.
Alors c'est ça que je trouve, d'une certaine façon, ça redonne un peu d'espoir.
Oui.
Les joueurs
dans
le vestiaire se disent, hey, pourquoi pas,
c'est ça.
On espère que ça marche.
Exact, rendu là, je suis bien d'accord. OK, un gros merci, Louis. Hey, go Red Wings, go, hein, pour ce soir, c'est important pour descendre le plus bas possible.
Ah ben là, écoute, si le Canadien devait rejoindre les Red Wings, là, t'as une chance pour Lafrenière.
Une vraie chance.
Ça arrivera pas parce que les Red Wings, c'est comme les Dead Wings des années 80.
Ouais, ça va.
Ça va être tough à les rejoindre.
Exact. Merci, bonne soirée.
Bonne soirée, bye-bye.